Aujourd'hui, pour animer cette émission Santé et Spiritualité, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Hoth. Hervé Hoth ou Hoth ?
Hoth.
Hoth.
Ça dépend de quelle région on appartient.
Vous venez de Millau ?
Moi, je viens de Millau, dans l'Aveyron.
Vous êtes à Millau, vous êtes de passage à Paris.
Voilà.
Et vous allez nous expliquer aujourd'hui l'art de concilier les parties.
Par exemple.
Par exemple. Mmh. Alors, Hervé Hoth, quand j'ai préparé cette émission, j'ai pu voir que vous étiez formateur consultant en approche et transformation constructive des conflits. Mmh. Je me suis dit, c'est long tout cela. Mmh. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire médiateur ?
Alors, c'est long, c'est pas très commercial, mais c'est pour respecter ce que je veux dire à travers cette démarche. Est-ce que ça veut dire être médiateur ? La médiation, c'est une partie de mon travail de transformateur des conflits. C'est un des éléments, il y en a d'autres. Dans la formation, je fais de la prévention au conflit, je fais de l'accompagnement aussi à travers la consultation. J'accompagne des responsables d'organisation, j'accompagne des individus. Et puis, je peux faire de la médiation, mais c'est une des parties de ce travail du traitement des conflits.
Vous allez justement nous expliquer en quoi cela consiste. Pourquoi est-ce que peut-être la société a oublié comment résoudre de simples conflits, ou si ce que vous pratiquez est un art qui se perpétue, parce que les hommes ne savent pas s'entendre les uns avec les autres, en tout cas assez bien communiquer pour faire avancer les choses. Vous avez formé l'Institut européen Conflit, Culture, Coopération. Vous nous en parlerez aussi dans quelques instants. Pour débuter cette émission, comment pourriez-vous en quelques mots nous expliquer votre métier ?
Alors, c'est un métier de formateur, c'est-à-dire que je réponds à des demandes d'intervention. En ce moment, c'est surtout auprès d'enseignants, auprès d'éducateurs, auprès d'ONG ou d'organisations qui traversent des périodes difficiles, parce que les tensions, ce sont des personnes qui sont très souvent dans la relation, exposées à la relation prioritairement, et qui ont de la peine, par manque de formation, de mon point de vue, qui ont de la peine à accueillir l'agressivité qui se dégage de la part d'enfants, par exemple. Je travaille dans des maisons d'accueil, maisons d'enfants à caractère social, c'est des enfants qui sont très souffrants, et les éducateurs doivent arriver à vivre avec eux, les faire respecter un certain nombre de règles, et ces enfants sont en permanence en train de transgresser les règles. Et les éducateurs sont souvent en situation d'impuissance. Mais je peux aussi intervenir pour aider une organisation à préparer une manifestation, parce que elle sait que au sein de la manifestation, il peut y avoir des personnes qui ont envie d'en découdre, et qu'il y aura des forces de l'ordre, et que donc il faut créer un espace tampon et des consignes de sécurité qui permettent à chacun de pouvoir réaliser ce qu'ils doivent, c'est-à-dire la police, elle est chargée de maintenir l'ordre, et l'organisation, elle a tout intérêt à ce que ça se passe bien, parce que les débordements vont être stigmatisés et elle va perdre son objectif.
En comprenant mieux ce que vous faites, en allant sur votre site internet pour préparer cette émission, d'ailleurs je le donne à nos auditeurs s'ils souhaitent y aller pendant, pour suivre aussi en lisant, c'est le IECCC.org, IECCC.org. J'ai beaucoup pensé au Théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal et donc au Théâtre Forum. Est-ce qu'il y a un lien ?
C'est un des outils que nous utilisons dans la formation, pour apprendre à transformer les situations. Alors, là, je voudrais dire deux mots. C'est la plupart, nous parlons de gestion de conflit. Voilà, c'est un mot très à la mode, la gestion. On gère sa carrière, on gère son portefeuille, on gère son couple, on gère ses émotions. Bref, on gère tout, sans arriver à pas grand-chose. Parce que c'est une vision très technicienne des relations et des problèmes. En réalité, on ne gère pas les conflits parce que, la plupart du temps, on est dedans. Donc, mon idée, c'est qu'on les transforme. C'est une notion qui est très banale dans le monde anglo-saxon, mais qui, chez nous, passe très mal, pour l'instant en tout cas, Nous avons toujours l'idée que nous sommes à l'extérieur des conflits et qu'il suffit de faire quelques recettes et de manipuler les gens pour leur faire gober ce qu'on veut leur faire gober. Dès que nous sommes témoins, sinon acteurs dans un conflit, nous allons devoir adopter une position, des comportements qui vont soit accélérer, soit renforcer le processus conflictuel, ou au contraire désamorcer les processus qui sont souvent violents. Donc, parce qu'au cœur des conflits, souvent il y a de la violence. Pas tous. Ce que nous retenons quand nous utilisons le mot conflit, très souvent nous n'en retenons que la dimension violente. Parce que c'est celle qui a laissé une trace de souffrance, alors que très souvent nous savons aborder des conflits, nous les transformons de façon, par la négociation, pour aboutir à un compromis, mais comme ça ne laisse pas de souffrance, nous oublions de retenir les compétences que nous avons mises à l'œuvre pour les transformer.
Qu'est-ce que vous appelez violence ?
La violence, pour moi, c'est tout ce qui fait faire à l'autre une expérience de mort réelle ou symbolique. Depuis l'injure et la dévalorisation, jusqu'au meurtre, et même au-delà, la torture. C'est une façon de dégrader l'autre et de le réduire à un objet. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise violence. La violence est un processus de dégradation des autres.
Vous voulez dire que donc s'il y a eu ce phénomène de violence, mais qu'on détourne les raisons ou la situation vers un autre problème, cela reste au fond de nous-mêmes et cela ressort un jour ?
Je veux dire que, alors, je dirais que la violence, fondamentalement, la violence est une absence de mise en mots. M-O-T-S. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai une émotion, pour mille raisons, d'éducation ou autre, je n'arrive pas à mettre des mots sur cette émotion, elle va rejaillir sous forme de violence contre. Et on va parler de la colère contre, par exemple, ou de la peur contre. C'est pas « j'ai eu peur quand tu as dit ça » ou « je suis en colère quand je vois ça », mais « tu es con et tu me fais chier ». Ça, c'est un défaut de mise en mots de mon ressenti, on va dire, ou de mes affects, globalement. Hein. Donc, toute cette approche des conflits suppose déjà une certaine anthropologie, c'est-à-dire une certaine perception des êtres humains, comment nous fonctionnons à partir de nos désirs, de notre agressivité, à partir de nos besoins, de nos émotions, mais aussi dans les groupes, à partir des processus de groupe, comment se partage le pouvoir, comment il se délègue, etc. Il y a trois dimensions, généralement, dans les conflits. Il y a la dimension personnelle et interpersonnelle, la dimension structurelle et la dimension culturelle. C'est celle des justifications. C'est-à-dire quand quelqu'un dit « j'ai fait ça parce que », là, on est très vite dans la dimension culturelle. La culture, ça nous sert à justifier nos comportements.
Nous allons parler justement de vos méthodes. Utilisez-vous la lecture parce que, une fois de plus, ce que vous venez de dire fait référence pour moi à une association lancée par Alexandre Jardin, écrivain, qui, comme vous, pense que le manque de vocabulaire amène à le manque de mots, pardon, amène à la violence parce qu'on ne sait pas exprimer ses émotions. Alors, est-ce que vous utilisez la littérature, des contes bien précis ou des mots, des textes pour gérer des situations de conflit?
Moi non, mais je sais que j'ai un ami qui le fait, qui m'a parlé d'un visiteur de prison qui raconte des contes de Grimm, qui disent par exemple, il lit un conte d'une belle-mère qui a coupé la tête de sa fille et qui accuse son garçon de l'avoir fait ou l'inverse, etc. Et bien sûr, les prisonniers disent, c'est dégueulasse, elle est abominable. Et il leur dit, oui, mais voyez, vous l'avez fait. Là, on fait que le raconter. Et le fait de le mettre en mots, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus important, ça nous décharge de la pression des affects. Donc mon travail de formateur, j'utilise pas la littérature, mais je pourrais le faire, moi j'insiste beaucoup sur la mise en mots des affects. C'est-à-dire j'apprends à nommer ce que c'est qu'une émotion, combien il y a d'émotions, qu'est-ce qu'on appelle une émotion, qu'est-ce qu'on appelle un sentiment. Les émotions, c'est bien sûr, il y a la colère, la tristesse, la tristesse, la joie et la peur, mais il y a aussi le dégoût, la honte et la compassion. Et puis, il y a des besoins. Nous avons des besoins d'amour, de reconnaissance, de sécurité, d'autonomie, voilà, et de créativité. Et d'arriver à mettre des mots là-dessus est extrêmement libérateur.
Il y a une génération qu'on a appelée la génération MTV, parce qu'elle était tout le temps devant la télévision,
oui.
Et parce qu'elle n'était plus vraiment capable de ressentir d'émotions blasées partout,
oui.
Blasées par toute situation,
horreur
ou bonheur.
Oui. Je suis moi-même frappé quand je vais au cinéma de voir la violence des publicités. Mais c'est parce que je suis pas un grand fanat de la télé, je la regarde pas, que sous les formes de films. Et je vais aussi assez rarement au cinéma, mais je suis frappé de la violence des images et des sons. Et qui sont, c'est simplement, maintenant c'est banal. Et donc on va probablement vers des systèmes de plus en plus violents pour mobiliser les gens dans leur acte d'achat. Voilà. On a remarqué que les jeunes en banlieue, alors c'est un gros mot les jeunes, mais qu'il y a une déperdition du vocabulaire. Maintenant, par exemple, on s'est rendu compte qu'avant on parlait d'hyper, super, extra, maintenant c'est trop. Voilà. Il y a un mot qui en résume quatre et qui en résumait avant beaucoup plus.
Je vous rassure, ce n'est pas qu'en banlieue, c'est partout.
Ouais, c'est vrai, mais...
C'est partout,
ouais.
c'est vraiment voilà. Partout.
Il y a une déperdition du langage, et ça, les phénomènes médiatiques jouent aussi beaucoup, parce qu'on ne prend pas le temps de s'exprimer.
Comment faites-vous pour encore toucher l'émotion des gens, quand on voit par exemple que le développement de la télé-réalité dans le monde, et notamment en France, récemment, on a un tout petit peu changé les règles, parce que les gens étaient trop habitués à la télé-réalité, et on les a amenés vers l'indignation pendant l'émission, pour qu'ils prennent parti ou pas, et pour que ce soit oublié après. Comment faites-vous, vous, pour déclencher une émotion, alors qu'on a l'impression qu'ils ont tout vu?
Alors, je ne sais pas si j'ai des personnes qui relèvent de cette catégorie. Quand je travaille avec des enseignants et des éducateurs, c'est peut-être des personnes qui ont déjà un petit peu de recul dans leur façon de réagir. Mais, par exemple, si je crée une situation à travers un jeu de rôle, je dis voilà, vous avez votre collègue qui vous a insulté, vous avez envie d'en reparler. Et là, encore il y a deux jours, j'étais en formation avec des personnes et il y avait une personne qui racontait qu'elle était allée voir le maire de son village et qu'elle s'était fait jeter et tout ça, donc elle était encore pleine d'affect. Donc, je l'aide à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Je lui dis, c'était quoi que tu ressentis? Elle me dit, oh ben j'avais un malaise. Je lui dis, oui, mais c'est quoi un malaise? Ton malaise à toi, c'était quoi? Tu étais en colère, tu as eu peur, tu as eu honte, voilà. Et puis ça renvoyait à quel besoin de toi? Tu te sentais rejeté? Donc c'est le besoin de reconnaissance, tu te sentais agressé, c'est le besoin de sécurité, etc. Ce qui compte, c'est de donner des grilles de lecture aux personnes pour qu'ils arrivent à mettre des mots sur leur propre vécu. Alors j'ai aussi, dans ce cas-là, des gens qui disent « Ouais, mais c'est dégueulasse, la méthode est trop violente, la technique, etc. » Et je sais que quand une personne critique la technique, c'est qu'il a un malaise intérieur, et donc il faut que je lui tende des perches pour lui dire « Bon, ok. » D'habitude, les critiques de la méthode, c'est qu'il y a un malaise. C'est quoi votre malaise quand vous dites ça? Non, non. Donc, la première réaction est rationnelle et argumentaire. Et puis, petit à petit, la personne accepte de dire, ben, je suis mal parce que je sens que la personne est mal. Voilà. Je dis, oui, mais c'est elle. Oui, mais si je me mets à sa place. Je dis, oui, vous vous mettez à sa place, mais il n'y a plus personne en face. Comment on fait? À quoi ça sert de se mettre à la place des autres si vous n'êtes pas la vôtre? Et donc progressivement, la personne arrive à dire, ben voilà, moi je vis la même douleur que l'autre. Je dis oui, mais c'est la vôtre. Et si je me pose la question à la personne qui s'exprime, qui est en train de jouer, elle peut très bien dire, mais moi ça va très bien. Contraire, je me sens libéré parce que j'ai pu vivre là dans l'instant. Donc vous voyez, quand nous sommes témoins du conflit des autres, il y a un vieux système archaïque qui fait que nous prenons parti, et ça répond à la deuxième partie de votre intervention, c'est que spontanément, mais pas lucidement, nous prenons parti pour la personne que nous identifions à la victime. Et nous agressons l'agresseur, qui devient victime à son tour, et c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique, c'est-à-dire que ça tourne. Et un des phénomènes dramatiques dans les systèmes de violence, c'est justement, et c'est exacerbé par la radio, les médias, mais par tout notre système ambiant, c'est qu'on nous oblige à prendre parti. Alors, dans les trucs politiques, c'est terrifiant encore plus. C'est-à-dire que c'est ou blanc ou noir, et il n'y a pas de gris, il n'y a rien au milieu. Et ça, c'est terrifiant. parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'être soi-même, on est obligé de se rattacher à un clan. Et ce phénomène partisan, c'est-à-dire qui dit qu'il n'y a qu'un groupe qui a raison et l'autre il a forcément tort, c'est à la base de tous les phénomènes guerriers, de tous les phénomènes racistes, de tous les phénomènes violents. Même, par exemple, si j'assiste, si j'apprends qu'un couple de mes amis divorce, je peux immédiatement dire « ouais, c'est dégueulasse, c'est lui ou c'est elle, t'as qu'à voir, ils sont comme ci, comme ça ». Eh bien, je ne vais pas les aider. Et moi, je ne vais pas me laisser toucher par ce qu'ils sont en train de vivre. Par contre, si j'arrive, si ça m'est arrivé avec des amis, à leur écrire rigoureusement la même lettre aux deux en disant « j'apprends que vous vous séparez ». Et ça me fait mal parce que c'est entre vous deux que j'aime. J'ai une forte relation. Donc, je veux bien vous aider, mais ne comptez pas sur moi pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et puis, je vous invite à essayer d'une médiation, ne serait-ce que pour vous quitter en bon terme. Mon souci, c'est pas que vous vous réunissiez de nouveau, je respecte votre décision, mais qu'au moins la séparation ne laisse pas un paquet de douleurs terribles dont vos enfants vont subir le contre-coup, dont vos amis vont subir le contre-coup, parce qu'on n'osera plus savoir comment rentrer en relation avec vous. Vous voyez, ce phénomène partisan-là, et je dis, il faut développer des attitudes de solidarité non partisane. Je peux être solidaire, je peux choisir avec qui je veux être solidaire. Pour autant, celui avec qui je suis solidaire n'est pas tout blanc et l'autre n'est pas tout noir. Voilà. Parce que si je m'implique dans le conflit, je ne fais que le renforcer. Et un conflit a toujours une issue violente quand il reste bipolaire. À ma façon d'intervenir comme tiers dans le conflit, en tiers impartial, c'est-à-dire que je garde équidistance avec les deux, parce que les deux personnes souffrent. Je peux dire qu'il y en a un qui n'a pas respecté la loi, ou la loi internationale, hein, par exemple dans le conflit Israël-Palestine. Je peux, bien sûr, je suis obligé de dire qu'il y a un des pays qui ne respecte pas la loi. Mais pour autant, ça ne servira à rien de dire il y a les bons Palestiniens et les méchants Israéliens. Parce que des deux côtés, il y a des gens qui souffrent. Et donc je vais, au contraire, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec cette souffrance.
Lorsqu'une personne fait appel à vous, une entreprise, un groupe de personnes, que sais-je, ou une famille, cette personne qui fait appel, est-ce parce qu'elle elle a un regard plus léger sur la situation, ou extérieur, plus sain, ou est-ce que justement, c'est parce qu'elle est dans la violence et qu'elle a l'impression que vous allez lui donner raison. Comment est-ce que ça se présente,
si elle fonctionne comme ça, je vais la dissuader. Mm-hmm. Je vais lui dire, ne comptez pas sur moi pour vous donner raison. Non, la plupart des gens, parce que si ça fonctionnait comme ça, on aurait beaucoup de clients. Or, il y en a peu. Les personnes qui font appel à la médiation, c'est celles qui voient bien, qui reconnaissent qu'il y a un blocage, mais qui ont envie de dépasser ce blocage. Et les personnes qui disent non, de toute façon, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, ne viennent pas faire appel à nous. Il y a toujours, dans les personnes qui demandent une médiation, le désir de raccrocher, de reconstruire une relation, ou dans les personnes qui, par exemple, que je suis sollicité par le responsable d'une maison d'éducateurs, où il y a eu des baffes qui sont partis, etc., c'est parce que il y a l'idée que, en faisant de la formation, on va pouvoir donner d'autres outils aux éducateurs que la baffe, qui n'est pas un outil d'ailleurs, qui est une réaction spontanée et pas très lucide. Et moi, je vais venir derrière pour leur montrer d'où vient cette impulsion-là et comment ils peuvent la travailler autrement. Parce que nos émotions, nos affects sont des énergies. Mais souvent, elles se trompent de cible.
De par votre non-prise de parti, de position, est-ce qu'il vous arrive de devenir l'ennemi? Et est-ce que, non-prise de position, vous êtes au milieu de deux personnes qui sont en conflit,
oui.
Est-ce que, du coup, vous devenez l'ennemi? C'est ce qui résout le conflit entre les personnes. Est-ce que ça arrive, ça?
Ça peut arriver si j'interviens comme partisan, mais pas...
Non.
Mais si j'interviens comme élément neutre, alors je peux tomber, ça va pas se passer entre deux personnes, ça peut se passer entre groupes. Par exemple, je vous donne un exemple. J'étais très actif dans la lutte des paysans du Larzac. Et après la lutte, il y a eu un terrible conflit entre deux figures de proue du mouvement de résistance des paysans, et qui ont constitué deux clans. Finalement, ils ont constitué deux clans. Sur un problème qui, pour moi, était certes très important, c'était l'avenir des terres achetées pendant la résistance du Larzac, mais qui était un problème de terres et qui n'était pas un problème de personnes. Et un jour, j'ai été sollicité pour signer une pétition. Et j'ai dit à celui qui m'a appelé à pétition, je lui ai dit, écoute, non, ça fait trop longtemps que je connais ce conflit, je refuse de signer la pétition, mais je vais faire autre chose. Je ne savais pas quoi encore à l'époque. Et j'ai décidé, finalement, après en avoir parlé avec des amis, j'ai décidé de jeûner. Parce que je voyais bien que la justice ne pourrait pas trancher une histoire comme ça. Et en plus, je voyais les titres dans la presse, les paysans du Larzac s'entre-déchirent. Enfin, pour moi, c'était 10 ans de lutte foutue par terre. Donc je suis allé voir les deux personnes de proue, et je leur ai dit, voilà, à partir de lundi prochain, je vais jeûner jusqu'à ce que vous soyez d'accord pour entreprendre une vraie médiation entre vous. Ils m'ont dit, mais non, tu te rends pas compte, tu vas faire ça pour rien, tu vois bien que c'est le problème, c'est les autres qui déconnent. Mais je jeûnerai. Et j'ai jeûné 8 jours. J'avais pas donné de limite. Mais au bout de 8 jours, les personnes qui ne voulaient pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, se sont mobilisées et ont sonné l'alerte et ont dit, on va quand même pas laisser Hervé crever. Maintenant, soyez un peu raisonnable. Et donc, comme on avait un peu préparé le terrain, je leur avais proposé que chacun nomme une équipe de personnes qui pourraient... Ce qu'il fallait, le conflit était tellement affectif qu'il fallait les décharger de la responsabilité du compromis. Voilà. Mais dans chaque équipe, il y en avait un qui était récusé par l'autre. Et donc finalement, sous la pression morale, bien sûr, j'ai fait une pression morale, mais pas sur le contenu, sur la forme, ils ont accepté de prendre tout le monde. Plus personne n'a jeté d'exclusive. Et au bout d'une séance, il y a la moitié des gens qui ont dit « mais moi, j'ai pas besoin d'être là », etc. Et donc, en 6 mois, le problème était réglé. Ça durait depuis...